Radio. Dynamique, premier sur le web.
Dynamique Radio, premier sur le web, c'est la libre antenne. Ce soir, on est de retour à l'antenne et on est avec Père Henri. Bonsoir, Père Henri.
Bonsoir.
Ça va, la forme ?
Toujours.
Toujours. Alors, aujourd'hui,
encore
on t'a
plus,
demandé,
Jésus, je t'aime.
Oui, on t'a demandé de nous parler un petit peu de la vie de Jésus.
Voilà. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu aimes Jésus ?
Oui, Jesus. I love
Jesus. In the name
Jesus.
Of Jesus.
I love...
Jesus.
Jesus.
Et toi, Karen, est-ce que tu aimes Jésus ?
Karen.
Oh là !
Ah, moi, oui.
Ah,
voilà. Totalement.
T'as mis du temps à répondre quand même.
Est-ce que tu...
Elle s'est dit, mais Karen, c'est moi.
Que...
Oui, c'est...
oui, oui, c'est vous. C'est vous, Karen. Karen, non, Jesus
c'est,
love.
C'est
Jesus cry.
Okay. Et est-ce que tu lui parles ?
Oh oui. Alors parfois, j'attends sa réponse.
Oui.
Parfois, je la reçois à retardement. Mais je la reçois.
Jésus, le père, le Saint-Curé d'Ars. Disait, je lui parle, il me parle. Je l'avise, il m'avise. Et le Saint-Curé d'Ars, qui était un ignare, de chez Ignare, qui n'avait pas de diplôme, qui n'avait rien du tout, il a confessé la terre entière. Et même les ministres, même les gens venaient le voir pour... Et avant même qu'ils aient fini de... Il disait rien, et déjà, il leur disait, ah, ok, ça, ça et ça. Il entendait dans son cœur, voilà, ce que les gens avaient comme problème, avec comme difficulté, et en quoi ils avaient besoin d'être libérés, parce qu'ils étaient enchaînés par des addictions, par des problèmes. Et Jésus, c'est lui qui vient nous libérer.
Alors, pourquoi il est venu nous libérer et quid de sa vie à l'époque ?
Eh bien, il y a 2000 ans, il vivait jusqu'à l'âge de 33 ans,
oui,
avec 30 ans de vie, je dirais, cachée, et 3 ans de vie publique. Et aujourd'hui, Jésus vit toujours. Il vit en chacun de nous. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Comme dans la parabole, Jésus nous dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Voilà. Et on a besoin les uns des autres, et on le voit bien, on est tous différents, on est uniques aux yeux de Dieu. Et Jésus nous révèle l'amour du Père, nous révèle que nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Que tu es, Isa, toi, unique, et différente de chacun de nous. Que tu es différente de Karen, que on est, voilà, Stan est différent.
Alors, bah oui, ça, oui.
Comment on en est arrivé là, finalement ? Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans la vie de Jésus, notamment ? Alors, on peut peut-être dire à nos auditeurs, il est né où ?
Alors, Jésus est né, effectivement, en Palestine. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Pourquoi la Palestine ? Eh bien, déjà, il y a une histoire, effectivement, du peuple juif, du peuple hébreu, plutôt. Et c'est vrai qu'il y a eu des prophètes, comme tu l'as dit, qui ont annoncé, je dirais, la bonne nouvelle que notre Dieu est un Dieu d'amour. Même les musulmans dans le Coran reconnaissent que Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie ce côté important. Et à travers les siècles, Dieu s'est aperçu que les hommes, il envoyait des prophètes, mais que les hommes ne les écoutaient pas. Donc il y a le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, tous les prophètes dont on a entendu parler. Et à force de ne pas les écouter, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de prophètes qui ont dit au Seigneur, mais Seigneur, on fait ce qu'on peut, mais ça
n'arrive pas, quoi.
C'est pas évident.
Dur labeur.
Et donc Dieu, c'est... Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. On peut le comprendre. S'il est Dieu, rien n'est impossible pour lui.
Bien sûr.
Et rien ne l'empêchait non plus, effectivement, d'envoyer son fils, Jésus, sur terre pour nous révéler l'amour qu'il veut donner à chacun de nous.
Alors,
et c'est vraiment l'important, c'est d'entendre que Jésus est venu sur terre nous révéler l'amour du Père. Et deuxième chose, je le dis parce qu'on l'oublie, c'est nous apprendre à aimer avec notre corps et avec notre esprit. C'est-à-dire, on n'est pas désincarné. Si Jésus est venu sur terre pour prendre un corps humain par la Vierge Marie, eh bien, c'est effectivement pour nous apprendre à aimer avec notre corps.
Alors, je vais être très terre-à-terre, mais Jésus, il a donc un papa et une maman.
Jésus a un papa et une maman.
Ah oui, Joseph.
Donc le papa, c'est...
Joseph.
Le papa,
Joseph.
C'est effectivement Joseph dans la Bible. Mais la réalité, c'est que...
C'est Dieu.
Marie a été effectivement fécondée par l'Esprit-Saint. Et donc là, c'est important de prendre... À chacun peut entendre. Si je me laisse féconder par l'amour, eh bien, je vais engendrer l'amour. Si je me laisse féconder par l'amour, je vais engendrer l'amour. Donc quand Marie se laisse féconder par l'Esprit Saint, par l'Esprit d'amour de Dieu, elle engendre le Christ, elle engendre Jésus, et qui nous apprend à vivre de l'amour de Dieu. Mais c'est valable pour chacun de nous.
Très bien. Donc pour être, alors revenons à la donc à la période de Jésus. Donc papa de Jésus, donc c'est Joseph a priori.
Hein, Joseph. Tout
et
à
Joseph,
fait.
Il fait quoi dans la vie?
Eh ben Joseph, bah, c'est... Oui. Mais si, Stan, tu peux répondre, c'est bien. Joseph est charpentier, c'est vrai. Et Joseph est charpentier, et c'est ce qu'on appelle le père nourricier. C'est le père nourricier qui a appris parce que ça, Joseph, c'est pas n'importe qui. Joseph, c'est vraiment le descendant aussi du roi David, c'est descendant de et qui est effectivement une connaissance, je dirais, de la Bible, une connaissance de Dieu que peu avait et qui était d'une très grande, je dirais, d'après les écrits, d'après ce qu'on voit, qui était effectivement d'une très grande discrétion, mais en même temps beaucoup, beaucoup d'amour à donner à son fils qui a permis de grandir dans une grande liberté. On prend l'exemple effectivement dans l'évangile où Jésus se retrouve à 12 ans. 12 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est en fait, c'est, je deviens adulte, je deviens responsable.
À 12 ans.
Et à ce moment-là, eh bien effectivement, ils vont à Jérusalem pour se faire recenser et Marie et Joseph vont avec Jésus. Et quand ils repartent, au bout de 3 jours, ils repartent avec donc toute la caravane avec laquelle ils étaient partis. Et là, ils cherchent Jésus tout le long de la caravane, ils ne le retrouvent pas. Et au bout de 3 jours, ils le retrouvent. Il était en train de parler au docteur de la loi dans la synagogue de Jérusalem pour discuter avec les docteurs de la loi, pour annoncer, voilà, pour témoigner, et pour écouter, pour poser des questions. Et c'est vrai que ça veut dire que nous sommes tous invités, comme Jésus, dès qu'on est adulte, à prendre un certain recul, une certaine maturité, et se poser des questions.
Ouais.
Voilà, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Voilà. Et qu'est-ce qui est important aussi dans l'histoire des hommes qui me permet aujourd'hui de réfléchir et de voir aujourd'hui ce que je peux reconnaître comme étant bon pour moi et bon pour mes enfants et bon pour éventuellement pour créer effectivement créer je dirais une famille, pour fonder une famille et avoir des enfants et qu'est-ce que je veux construire. Mais à partir effectivement de la parole de Dieu, donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, donc les évangiles, les écrits également de saint Paul, etc., eh bien, on peut apprendre facilement à vivre d'amour. Et donc, c'est effectivement Jésus, dès l'âge de 12 ans, qui nous donne l'exemple de regarder comment, dans les Écritures, on peut découvrir le chemin pour grandir dans l'amour du prochain, dans l'amour de la vie.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc 12 ans là, on continue donc dans le fil de sa vie, on arrive à quel moment?
Alors,
quel est l'autre événement
disons que,
fondateur
là, ce qui a été fondateur, c'est qu'effectivement Jésus, à partir de ce moment-là, et quelques années après, donc quand il a eu atteint l'âge de 30 ans, eh bien, ce qui montre qu'il avait pris déjà un certain délai
maturité.
Pour découvrir la vie, pour observer, bon, à l'écoute, pour voilà, et prendre soin de...
Est-ce qu'on a des écrits entre, de la vie de Jésus entre 12 et 30 ans?
Il n'y a pas d'écrit...
Le témoignage.
Non, il n'y a pas de témoignage.
Trop ancien.
Non,
ouais,
il n'y en a pas. Mais c'est vrai que, bien sûr, on trouvera des écrits par-ci, par-là, qui sont ce qu'on appelle des textes apocryphes, qui sont des textes qui ne sont pas reconnus, je dirais, par l'Église catholique, ni même l'Église protestante, et qui sont un peu du romancé. Bon, donc ça, je le laisse de côté.
On
je
met ça de côté. Est-ce qu'il y a des représentations de Jésus à son époque? Est-ce que quelqu'un l'a peint? Est-ce que quelqu'un l'a...
Alors, la première représentation la plus connue, et qui est aujourd'hui vraiment reconnue, c'est de Linceul de Turin. Linceul de Turin, quand Jésus a été crucifié sur la croix, ensuite son corps a été mis dans un tombeau et il y avait un linceul et il y avait donc un drap sur lequel il a été, je dirais, couché et il a laissé des traces de sang, des traces de sueur, des traces d'eau, etc.
Ouais.
Et aujourd'hui à Turin, il y a ce qu'on appelle le linceul de Turin qui est au niveau historique vérifié, confirmé par
tout un tas de scientifiques
qui démontrent, je dirais, que ce linceul date effectivement de l'époque du Christ.
Mais il n'y a pas de représentation, du coup,
et
ça ne suffit pas.
Il y a une représentation sur ce linceul du corps et du visage du Christ.
Du visage du Christ et du corps.
D'accord, sur le linceul.
Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, il faut quand même le dire, qu'est-ce qui s'est passé, et ça c'est extraordinaire, mais ça arrive à chacun de nous, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, je veux dire, au bout de 3 jours après, effectivement, sa crucifixion, eh bien, il est apparu d'abord à quelle est la première personne à qui il est apparu? Première personne.
C'est pas Marie-Madeleine?
Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine,
ouais. Il est apparu à Marie-Madeleine.
Qui est Marie-Madeleine, alors?
Alors, qui est Marie-Madeleine? Karen peut peut-être répondre.
Non, mais Isa peut-être.
Et donc, je vous réponds, qui est Marie-Madeleine?
Joker.
Qui est Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, en fait, c'est une femme.
Pardon.
C'est une femme qui... Non, c'est une femme dont
elle
est... Officiellement, et c'est vraiment dit comme ça, Jésus lui avait enlevé 7 démons. Donc, c'était une femme qui avait une vie difficile.
De mauvaise vertu.
Et qui était, non, qui avait beaucoup de dépendance, d'addiction. Elle était peut-être dans la drogue, dans la
Il l'a soignée, quoi.
Et il l'a libérée. Il l'a libérée de tous les esprits mauvais qu'il avait encombrés. Peut-être qu'elle était dans la jalousie, il avait peut-être un esprit de jalousie, etc. Et donc, c'est une femme qui était immensément reconnaissante d'avoir été libérée. Elle aimait énormément Jésus, et c'est elle qui avait...
Son amie, quoi.
Ben, c'était une amie qui, effectivement, la respectait, mais avec, je dirais, un exemple en particulier, elle avait... mis des parfums sur ses jambes quand elle était encore de son vivant, etc. Et Jésus avait dit, c'est pour mon enterrement qu'on met déjà ces parfums. C'était une tradition dans la religion juive. Et c'est vrai que cette femme a été la première à voir Jésus. Voilà. Okay. Et puis ensuite les autres disciples. Et puis ensuite, bien sûr, d'autres, plus de 500 disciples, plus de 500 ont vu Jésus vivant.
D'accord.
Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui voient Jésus vivant, parce qu'il y a une réalité que Jésus se manifeste aux hommes aujourd'hui comme il l'a fait il y a 2000 ans.
Absolument.
Et ça, je ne suis pas le seul à pouvoir en témoigner, c'est une réalité. Et il est clair que, simplement, il faut effectivement faire un peu de discernement, parce qu'il y a bien sûr des faux prophètes, il y a des gens qui vont dire à tout le monde qu'ils les voient alors que ce n'est pas vrai, c'est simplement pour se vanter, etc. Mais il y a énormément d'apparitions privées de Jésus, y compris de la Vierge Marie, qui existent et qui existent encore aujourd'hui.
Et
donc ça, c'est des manifestations de l'amour de Dieu pour des personnes qui se tournent vers Dieu. Et c'est l'importance, on en parlait tout à l'heure, c'est tournez-vous vers le Seigneur et vous serez sauvés. Est-ce que je me tourne vers Dieu chaque jour de ma vie? Est-ce que je prends du temps pour le louer, pour le chanter, pour lui dire
c'est merveilleux.
On a des exemples d'ailleurs, on a Marthe Robin qui s'est tournée vers Dieu et qui s'est repentie vers Dieu et qui a...
Qui c'est cette
Marthe Robin, c'est qui
pendant 40 ans, Marthe Robin n'a vécu sans rien manger d'autre que l'Eucharistie,
une hostie par jour.
Donc ça, c'est des grâces particulières avec des personnes qui se sont données à Dieu pour sauver d'autres personnes pour eux. Voilà. Et tout comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte à 24 ans dans un couvent donc à Lisieux, il est clair que l'année qui a suivi, je dirais, son enterrement, les bonnes sœurs du couvent l'avaient enterrée, mais comme une vulgaire bonne sœur, entre guillemets, parce qu'elle passait la serpillière, elle faisait. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'elle faisait chaque chose avec amour. Et l'année qui a suivi sa mort, il y avait des gens qui venaient sur sa tombe, et les bonnes sœurs ne comprenaient pas pourquoi. Il y a eu 3500 guérisons dans l'année qui a suivi sa mort. 3500 guérisons sur sa tombe.
Revenons à la vie de Jésus.
Tout à fait. Mais Jésus se manifeste toujours, que ce soit avec le Padre Pio dont tu parlais,
Absolument.
Etc. Que ce soit avec d'autres saints, et il y en a encore eu, on peut prendre aussi dans les camps de concentration, avec Maximilien Kolb, etc. Enfin, il y a des choses extraordinaires qui se vivent tous les jours, et on fera mieux de parler de ces merveilles que Dieu nous permet de vivre et de partager, effectivement, et on devrait partager ça plus souvent.
Alors, il y avait des questions la semaine dernière de nos auditeurs concernant notamment le pourquoi du comment Jésus s'est retrouvé dans le désert. Le temps de carême, le temps de carême, c'est
un temps de désert.
C'est un temps de désert, en fait. Concrètement, ça correspond à la période où Jésus se retrouve dans le désert. Alors, pourquoi y est-il déjà dans ce désert-là ?
Alors, Jésus, dans son histoire, au tout début de sa vie publique, il se fait baptiser par Saint Jean-Baptiste, et ensuite, il va effectivement...
Alors il se fait baptiser par...
Il demande à être baptisé par Jean-Baptiste, qui était celui qui baptisait déjà. Et au moment où il est baptisé, il y a une voix la voix de Dieu apparaît. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et ça, c'est pour chacun de nous. À chaque fois qu'on est baptisé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu es Fred, le fils bien-aimé de Dieu. Isabelle, tu es la fille bien-aimée de Dieu, etc.
Okay.
Et chacun, nous sommes enfants de Dieu si nous l'accueillons.
Oui.
Et à partir de là... Effectivement, après ce temps, Jésus est parti dans le désert. Et Jésus est parti dans le désert parce que c'est... Le désert, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est pour chacun de nous, le désert ? C'est un lieu où il n'y a rien.
Oui, c'est un lieu où il n'y a rien. Ouais.
C'est aride, il n'y a rien.
Il n'y a pas... Oui, tu peux pas de...
Et tu ne peux pas manger.
Tu ne peux pas boire.
Tu peux pas boire. Donc, tu es privé de quelque chose.
Et c'est quoi le désert ? C'est le Sahara ? Gobi ?
En Palestine, il y a des déserts. Ouais. Il y a des déserts dans tout le coin. Et donc, il s'est isolé dans le désert. Et aujourd'hui, on peut chacun avoir des temps de désert. C'est une invitation, et c'est le carême dont on parlait, c'est une invitation à prendre des temps où on sort de notre vie agitée. Là, aujourd'hui, on a une vie, mais on court à droite, on court à gauche, on prend le métro, on va faire une réunion, on va faire ci, on va faire ça, puis on va s'inquiéter pour ci. On va dire, les journaux disent ça, c'est bientôt la Troisième Guerre mondiale, c'est bientôt ci. Bon. Et là-dedans, on est rempli de problèmes. Le cancer de ma mère, le voisin qui m'a injurié, l'autre qui est un salaud, etc. Donc, notre tête est remplie de confusion. Et si on prend un temps, vraiment, régulièrement, si chacun de nous, on prenait un temps pour prendre un temps de... où on se retire de la vis, bon, pendant quelques jours, pendant peut-être une
donc
semaine.
Donc ça correspond à ça.
Ça permet de se poser des questions fondamentales, de dire voilà, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, qu'est-ce qui est important.
Mais ça, c'est l'interprétation qu'on en fait, mais concrètement, non, lui, dans le désert, non, qu'est-ce qui lui
tout,
est arrivé?
Pas du tout, je dis qu'est-ce ça aussi a... bien oui, pour Jésus que, effectivement, pour,
tout le monde,
pour
en fait.
Bouddha.
Oui, c'est un exemple.
Il y a des, temps,
oui,
y a des temps de désert aussi chez les bouddhistes. Parce que
mais dans le désert, l'homme... qu'est-ce qui lui arrive à Jésus? Parce que c'est, pour en revenir, parce que tu sais, le temps passe, et donc qu'est-ce qui lui arrive à Jésus dans le désert? Il fait des rencontres ou pas?
Dans le désert, si tu veux, il se passe qu'il est confronté... Alors, je voudrais quand même faire une petite explication. Dans notre vie de tous les jours, il y a des moments où tu es fatigué, Fred, ça t'arrive.
Ah oui, ça m'arrive.
Et bien, quand tu es fatigué, je dirais, tu as plutôt... chacun de nous, on a une tendance... peut-être que toi, tu as tendance à l'énervement quand tu es fatigué. Peut-être que tu as tendance à te replier sur toi-même. Peut-être que tu as tendance à boire de l'alcool. Peut-être que tu as tendance à faire telle ou telle chose. Quand on est fatigué, il y a ce qu'on appelle, ce que nous appelons, les rejetons. Des racines mauvaises qui apparaissent. Parce qu'on n'a pas la force de lutter. D'accord. Et le mal se manifeste.
Donc lui, c'est ce qui lui est arrivé
et
dans
le
désert.
Au désert, il a été confronté aux tentations du démon. Parce qu'effectivement, on est nous-mêmes confrontés à ces tentations, surtout
tous les jours. Hein.
Quand
tous
on
les
est. Jours, hein. Tous les jours, mais en plus quand tu es très fatigué. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que chacun de nous a été confronté à ça. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'en fais? Bon. Et le fait d'être baptisé. Et ça, c'est très important. Donc, vous venez de parler du baptême de Jésus, mais chacun de nous peut être baptisé et demander le baptême. C'est aussi reconnaître que le mal, je n'en veux pas, je le rejette. Par le baptême, je rejette le mal, je rejette Satan. Et ensuite, effectivement, je souhaite vivre de l'amour de Dieu et de vivre de la parole de Dieu. Parce que, effectivement, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si je veux vivre, eh bien, il faut que je rejette le mal.
On parlait du carême. Il y a d'autres fêtes chrétiennes qui sont relatives donc à la vie de Jésus, à la mort de Jésus.
Bien sûr, on les connaît presque tous.
Alors, dites-les-nous.
La fête de Noël, déjà, c'est la naissance
Noël.
De Jésus.
C'est la naissance.
Voilà.
Okay.
La fête de l'Épiphanie, c'est Jésus qui rayonne. L'Épiphanie, c'est la lumière qui rayonne sur le monde. C'est-à-dire que Jésus nous donne... de témoigner de la lumière, témoigner de ce qui est beau, de ce qui est bon, okay. De ce qui est bien. Et donc, il y a la fête de l'Épiphanie, il y a la fête, effectivement, de Pâques,
de
bien
Pâques.
Sûr. Alors, Pâques, c'est quoi la fête de Pâques? Qui est d'abord une fête juive au départ,
oui.
Qui, était qui était le passage de la mer morte. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir historiquement que dans la religion juive, le peuple d'Israël était prisonnier, esclave des Égyptiens. Et que donc, grâce, effectivement, à Moïse, eh bien, Moïse, qui était donc un des prophètes, Moïse, Aaron et Hur, ont guidé le peuple d'Israël pour le sauver.
Vers la terre
pour le
sauver. Promise.
Et vers la terre promise. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a le passage de la mer morte. Et effectivement, Moïse ouais. Lève le bras, etc. Et la mer se retire.
D'ailleurs, Pessah, c'est 40 ans.
Ensuite, c'est 40 ans dans
entre
le désert.
Entre le départ de l'Égypte et l'arrivée
en terre promise.
C'est 40 ans, ce qui correspond aux 40 jours de Pâques.
Et nous, il y a
40 Pâques.
Jours. Ouais,
voilà. Ça correspond à ça.
Mais en même temps, il y a eu tout le combat, et on voit bien tout le combat du peuple d'Israël, qui n'en pouvait plus, qui en avait marre, qui s'est rébellé contre Moïse, etc. Et donc, il y a eu effectivement les problèmes de la manne. Dieu a donné la manne pour que les gens puissent se nourrir dans le désert. Mais ils n'étaient pas contents, ils ont râlé. Et donc, ça a conduit à des problèmes. Et les serpents qui dévoraient. Bon. Et petit à petit, ils sont revenus vers Dieu. Voilà. Et c'est vrai qu'ensuite, ils ont pu arriver en terre promise. Mais c'est vrai qu'en même temps, dans notre temps de désert, si on fait, je dirais, cette démarche de prendre 2 jours, 8 jours, même quelques heures,
oui,
simplement,
ça
pour l'utiliser. Se mettre au pied du lit, chacun se met au pied de son lit et dit « Ok, j'arrête ma journée, Seigneur, je me tourne vers toi, je te demande de m'éclairer sur ce que je vis là et je me tais. » Et ce qui est important, c'est de s'adresser
à... Il y en a qui partent d'ailleurs en monastère. Moi, je pense à Nikos Aliagas. Nikos Aliagas, qui est animateur sur TF1, qui animait la Starac pendant des années. Chaque année, au mois de juillet, il passait une semaine dans un monastère sans rien ni personne, de manière à pouvoir...
Se ressourcer.
Se ressourcer, ouais.
Se ressourcer, effectivement, dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et puis... laisser effectivement. Ouais. Mais ce qui est beau, c'est de le faire régulièrement, de le faire chaque jour, et donc de se tourner vers le Seigneur et savoir que quand on parle ici de Dieu, eh bien Dieu est présent. Jésus est présent et qui porte un regard d'amour sur chacun de nous. Il faut bien entendre qu'on a cette joie de pouvoir vivre avec le Seigneur et de se laisser guider par lui, par l'amour, par sa parole, à travers les écrits. Et donc c'est petit à petit, bien sûr, c'est petit à petit, qu'en découvrant la vie de Jésus, eh bien, on va, à l'imitation de Jésus,
on va imiter,
franchir des étapes.
C'est ça. Voilà.
Alors après Pâques, et bien sûr, il y a l'ascension. Voilà.
Alors l'ascension, ça correspond à quoi dans la vie de Jésus ?
Eh bien, Jésus quitte effectivement donc la terre et revient vers le Père et il nous attire à lui, c'est-à-dire que
il monte au ciel.
Il monte au ciel, exactement. Et puis ensuite, il y a la Pentecôte.
Oui.
Et la Pentecôte, quand Jésus était avec ses disciples, il leur dit : je m'en vais et je vous donne et je vous envoie le Paraclet, je vous envoie l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, il a donné l'Esprit Saint à chacun de nous, si on l'accueille. Prendre l'Esprit d'amour de Dieu pour vivre. Est-ce que j'accueille l'Esprit Saint dans ma vie ?
Donc ça, c'est la Pentecôte.
Ça, c'est la Pentecôte où il y a eu les flammes qui sont descendues, les flammèches qui sont descendues sur chacun des apôtres et des disciples qui étaient réunis ensuite au Cénacle, qui étaient réunis,
d'accord,
avec la Vierge Marie. Et ensuite,
ils sont allés porter la bonne parole.
Et là, ils ont commencé la bonne parole. Et ils parlaient toutes les langues. Et ceux qui étaient, je dirais, les contrées lointaines, les entendaient. C'était extraordinaire. Comment peut-il parler mède ? Comment peut-il parler perse ? Comment peut-il... Alors qu'il est, c'est un simple pêcheur, parce que Pierre était un pêcheur, mais vraiment un vrai pêcheur qui connaissait rien.
Tout à fait. Voilà. Mais il répondait justement cette...
La bonne parole.
L'Esprit Saint, justement, a donné cette grâce, et le donne encore aujourd'hui, si j'accueille l'Esprit Saint dans ma vie, j'accueille l'amour de Dieu dans ma vie. Je choisis d'aimer et d'être aimé, de diffuser, de transmettre cette parole de Dieu. Quoi.
Et Père Henri, donc on a parlé des prophètes juifs. Est-ce qu'on peut parler de, notamment, alors là, il y a eu la fête de l'Aïd il n'y a pas très longtemps.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mahomet et de la signification de cette fête de l'Aïd ?
Écoute, j'ai effectivement à côté de moi la Bible, d'une part, et puis j'ai aussi le Coran, parce que j'ai apporté le Coran. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez proches entre, je dirais, le Coran et la Bible, puisque beaucoup de textes du Coran sont issus de la Bible.
De la Bible, oui, voilà. C'est le troisième livre.
Et qu'effectivement, il faut le dire, c'est le même Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est vrai qu'il a été modifié dans le Coran par beaucoup de textes qui... Bon, donc ce qui est important, c'est de voir que les musulmans reconnaissent complètement, je dirais, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse, etc., et qu'il y a même des sourates entières, sur Ibrahim, sur Abraham, oui. Bon, sur Myriam, donc Marie, la maman de Jésus, reconnaissent Issa comme étant Jésus, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, je dirais, de points communs, et ce matin, c'était très, très sympa, ce matin, il y avait donc une estimation d'une maison qui devait avoir lieu, et j'ai donné un coup de main, et j'ai rencontré donc la personne de l'agence immobilière qui s'appelle Donia, qui était donc une musulmane, et à la fin, à la sortie, on a commencé à parler, et on a témoigné de l'importance de partager avec les pauvres et comment aussi bien les musulmans que les chrétiens étaient attentifs à ça et comment effectivement l'important c'était l'amour de Dieu, l'amour du prochain et que c'était pas de se bagarrer pour des religions.
Et ça passe par le don aussi beaucoup. Hein.
Ça passe par une relation, établir une relation personnelle avec l'un et avec l'autre. Et je pense que c'est super important, c'est que établir une relation personnelle avec Jésus, c'est-à-dire est-ce que j'accueille que Jésus me dit, ne soyez plus serviteur, mais appelez-moi plus serviteur, mais ami. Est-ce que je désire être l'ami de Jésus ? Si on désire être l'ami de Jésus, on peut effectivement vivre différemment, y compris avec des musulmans, y compris avec des juifs, y compris avec des athées, y compris avec des homosexuels, y compris avec tout le monde. Donc moi, je ne fais pas de différence. Et
qu'est-ce qui différencie Jésus de Mahomet, par exemple ?
Je dirais que Mahomet, je dirais, a repris énormément de choses qui étaient déjà dans la Bible, encore une fois, et une partie dans le Nouveau Testament, mais c'est vrai qu'il a mis en place des règles très strictes. Et donc, il y a ce qu'on appelle des hadiths, avec beaucoup de choses très strictes. Et c'est vrai que là, je dois dire que il y a beaucoup de musulmans qui se tournent vers Dieu et qui ont de l'amour pour Dieu. Ça, c'est tout à fait vrai. J'en connais beaucoup. Mais c'est vrai qu'ils sont quelquefois, certains, pas tous, mais très... très encombré par toutes ces règles très strictes.
Toute la réglementation.
Voilà. Qui ressemble d'ailleurs aux règles très strictes des juifs d'avant.
Oui, oui, c'est juif et muslim à travers des règles politico-religieuses, quoi.
Oui.
Et autrement, un mot sur la fête de l'Aïd, qui a eu lieu il y a quelques jours.
Oui, alors la fête de l'Aïd, il y a eu quelques jours. Et ben, c'est une fête, effectivement, qui est la fête de la rupture du Ramadan. Et c'est une fête qui est... Il y a deux fêtes, en fait, deux grandes fêtes chez les musulmans. Et c'est vrai que c'est une fête aussi qui touche de près ou d'un peu plus loin à la vie d'Abraham et d'Isaac et d'Ismaël. C'est effectivement, il y a dans la Bible le fait que Dieu permet que Abraham soit invité à offrir son fils en sacrifice. Et Dieu empêche au dernier moment, il veut tester la foi d'Abraham, il veut tester que Abraham est prêt
jusqu'au boutisme
à aller jusque là pour, et en fait Dieu l'arrête en disant non, c'est pas ce que je veux, et il met effectivement un bélier à la place ou un agneau.
Donc c'est, ça donc, c'est l'Aïd du mouton.
Et c'est donc effectivement l'agneau qui est le symbole aussi bien dans la religion chrétienne que effectivement chez les musulmans,
oui, de l'agneau,
de ce fait que Dieu a permis que soit sacrifié cet agneau pour le partage.
Alors ça c'est l'Aïd du mouton, mais l'Aïd le jeûne du Ramadan.
L'Aïd, la rupture du Ramadan, se fait aussi, et très souvent aussi les musulmans mangent beaucoup de choses sucrées,
tout à fait,
mais aussi
des
pâtisseries, après la prière du matin.
Gazelle, corne de gazelle.
Voilà. Mais également, certains sont également friands de partager aussi, je dirais, du mouton ou de
l'agneau.
Voilà, tout à fait.
Très bien. Bon, bah merci Père-Henri, c'était super éclairant, super intéressant. On se retrouve dans quelques instants, restez avec nous.
Soyez tous bénis en tous les cas.
Dynamique Radio. Dynamique Radio. Dynamique. La radio facile à écouter. Come on.